Bon, ben, fais changement, on va aller jaser. Chance qu'il n'y ait pas au déneigement. On va aller jaser avec quelqu'un qui a peut-être plus de réponses. Bonjour, Carl Bélanger.
Salut, Roch Jalette.
Ouais. Reçu de la place dans la principauté de Chelsea, là, des maisons en vente? Non?
Il en reste quelques-unes, en fait. Je te dirais qu'il y en a plusieurs qui sont sur le marché depuis quelques semaines. Là, on sent que ça déconfine, puis les gens qui pensaient peut-être à vendre, ils ont commencé à remettre ça sur le marché.
D'accord. Mais j'ai pas les moyens de la principauté de Monaco, n'est-ce pas?
Mais de Monaco, certainement pas. Chelsea, peut-être.
Carl, plusieurs éléments. Commençons par la nouvelle fraîche. La coroner en chef du Québec lance une enquête pour les morts dans les CHSLD.
Ouais, le bureau du coroner qui a annoncé ce matin, il y a une dizaine de minutes, quinzaine de minutes que la coroner en chef, maître Pascal Descarrie, allait déclencher donc une vaste enquête publique sur les décès survenus au cours de la pandémie de COVID-19 dans les CHSLD. C'est pas une surprise parce que la coroner qui sera présidente de cette enquête, maître Jeanne Kamel, c'est la même qui avait été mise en charge de l'enquête sur les décès dans la résidence Aaron.
Ah bon.
Au coin de Montréal, là, okay. C'était la première résidence. Le coroner avait déclenché une enquête pour cette résidence précisément. Et évidemment, vu l'ampleur de la pandémie et des ravages que ça a créé dans la CHSLD, la coroner qui va donc enquêter sur l'ensemble. Et ça, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour obtenir des réponses parce que si on se fiait au gouvernement, là, on semblait pas pressé du côté gouvernemental à déclencher une enquête publique, contrairement à ce qui s'est fait en Ontario.
Oui. Évidemment, c'est une enquête indépendante, puis on aura des recommandations. C'est que c'est une bonne nouvelle. On s'en attendait, par exemple. Je pense pas que c'est une grande surprise, Carl. On s'attendait à ça.
C'est pas une surprise. Moi, en fait, du moment où ils ont commencé à enquêter sur Aaron, je me disais que inévitablement ils élargiraient l'enquête. Alors, c'est ce qui se fait. Donc, oui, enquête publique, enquête indépendante.
Ouais.
On va analyser les décès. Je pense qu'on pourra obtenir beaucoup de réponses. Je pense que les coroners au Québec ont une bonne réputation sur le travail qu'ils font, le travail minutieux d'enquête qu'ils font. Et évidemment, au Québec, là, tout près de 5000 morts dans les CHSLD et autres résidences pour aînés.
OK, on va s'en aller au fédéral. Alors, point de presse de M. Trudeau que tu as suivi. Les grandes annonces ce matin, entre autres, c'est la question de la mise à jour économique?
Non, mise à jour, c'est un trop gros mot pour Justin Trudeau aujourd'hui, Rock. On aura droit à un portrait économique. En anglais, il a utilisé le mot « snapshot ». Un peu plus, je pensais qu'il allait parler de « selfie économique ». C'est pas grand-chose.
OK.
Je dois te dire... ça sera pas une mise à jour économique en bonne et due forme là. On va plutôt regarder le portrait actuel que le ministère des Finances analyse à peu près à tous les deux semaines. Mais on fera pas de projection. Il y aura pas de scénario. On n'est pas dans les mêmes eaux qu'une mise à jour économique en bonne et due forme. Dans le fond, on donne un petit nanane pour essayer de contenter l'opposition. Et ce nanane là, ben ça va avoir lieu le 8 juin. Le 8 juillet.
Tu seras à l'écoute, bien sûr, le 8 juillet. Tu vas écouter ça avec attention.
Ben, avec grande attention, quoi. Un petit selfie économique, évidemment. Ça devrait pas prendre trop de temps.
Est-ce que M. Trudeau est revenu sur, par exemple, le PCU, la PCU, la prestation canadienne d'urgence? Parce que ça fait des mécontents, ça fait des heureux, mais ça fait pas mal de mécontents également. Dans le monde économique, où est-ce qu'on a de la difficulté à trouver... À recruter de la main-d'œuvre? Est-ce qu'on a parlé de l'ouverture de la frontière avec les États-Unis? Est-ce qu'on a eu des indications là-dessus?
Ouais, la frontière américaine, c'est jusqu'au 21 juillet là que ça sera fermé. Alors ça, c'est réglé pour un autre mois. En ce qui a trait à la PCU, bien évidemment, c'est contenté de blâmer l'opposition pour les différentes mesures coercitives que le gouvernement voulait mettre de l'avant dans son projet de loi. C'est eux qui ont bloqué ça. Nous, on a essayé. Alors, on va regarder ce qu'on peut faire pour encourager les gens à aller sur la subvention salariale. Il a été surtout question, Rock, ce fameux siège sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Hein, le Canada qui fait campagne depuis plusieurs mois déjà, et même au cours de la pandémie, Justin Trudeau qui a multiplié les contacts avec des pays tiers, des pays étrangers, comme la Jamaïque, par exemple, et des plusieurs pays d'Afrique. Alors, le vote, ça a lieu aujourd'hui, et on saura si le Canada, cette fois-ci, sera en mesure d'obtenir ce siège-là.
Je vais y revenir dans quelques minutes avec Lawrence Cannon, d'ailleurs. On va tenter de jaser de cela pour mieux comprendre. En fait, on va faire ONU 101 aujourd'hui avec Lawrence Cannon. Juste revenir sur le PCU, parce que là, j'entends des choses contradictoires. Peut-être que tu vas être capable de m'aider. Quand M. Trudeau a annoncé la prolongation de 8 semaines du PCU, est-ce que ça a été assorti dans les faits, là, pas dans les intentions, dans un projet de loi qui n'a pas été finalement débattu, mais dans les faits, là, est-ce que le gouvernement a restreint certains critères d'admissibilité ou pour verser, il y a plus de critères de sélection, si on veut le dire comme ça? Est-ce que c'est plus difficile d'avoir les 8 semaines de PCU ou est-ce que c'est exactement la même mouture qu'avant?
Non, c'est la même mouture qu'avant. Les règlements permettent la prolongation, mais au niveau des critères là qui ont été mis en place par le gouvernement, le fédéral voulait qu'on modifie donc ces critères-là avec ce projet de loi-là. Mais Ottawa dit, ben Trudeau dit qu'il n'a pas renoncé à modifier le programme, donc ils veulent toujours aller de l'avant avec cette capacité du gouvernement de refuser de verser la PCU si les gens refusent des offres d'emploi raisonnables ou même refusent d'aller au travail pour toutes sortes de raisons. Alors, pour l'instant, on n'a pas de réponse sur comment le gouvernement va fonctionner, ce qu'il pourrait le faire de manière réglementaire. Ouais. Pour l'instant, il ne l'a pas fait.
Ouais.
De l'autre côté, au niveau des coûts supplémentaires, là, j'imagine qu'on va voir ça dans le selfie économique.
Oui. Probablement. Écoute, il me reste un peu de temps. J'aimerais ça revenir sur l'annonce d'hier. On en a parlé très rapidement de Dominique Anglade qui remanie son cabinet fantôme. Tout le monde ou à peu près change de portefeuille. Elle récompense certaines personnes qui ont été très fidèles et loyales dès le départ. Je pense à Marie Montpetit qui s'en va comme critique à la santé. Je pense à Carlos Letao qui va aller à l'économie. Et c'est un drôle de choix, je voulais t'entendre là-dessus. Carlos Letao qui n'a pas été un ministre des Finances ultra-vert et qui devient porte-parole, notamment en matière d'économie, mais aussi de changement, de lutte au changement climatique. Comment tu vois ça?
Ouais, écoute, c'est un choix qui est un peu surprenant là, à moins que le Parti libéral du Québec tente de bien cadrer ce débat dans le cadre justement d'une relance économique verte, donc un changement de cap. Je vois mal comment Carlos Letao arrive là avec une réputation, disons, verte pour séduire les électeurs pour qui ont des sensibilités environnementales. C'est un point d'interrogation. Faudra voir. Moi, je pense que Carlos Letao, c'est un homme compétent, mais disons qu'on lui a jamais senti une fibre plus verte que ça. Là.
Non.
C'était un peu une surprise dans plusieurs milieux environnementaux, je te dirais.
Oui, mais rappelons-nous le débat sur la consignation ou la consigne, je ne sais pas comment dire des bouteilles de vin. Il était à la tête, donc, comme ministre des Finances de la SAQ, puis ça a toujours été non, non, non. Ça va être intéressant. Qu'est-ce que tu... après 24 heures, est-ce que tu arrives toujours à la même conclusion pour André Fortin? Belle promotion, lourde responsabilité, c'est bon pour lui de ramasser le leader en chambre ainsi que les finances?
Oui, et puis en même temps, ça donne du temps de glace à un jeune, parce qu'André Fortin est quand même un jeune député encore. D'ailleurs, il y en a quelques autres, là, des jeunes députés, Franz Benjamin, qui va être à l'environnement, qui lui semble un peu plus cadré dans les mesures vertes là ou les mesures pro-environnementales que les militants recherchent. Il y a un point d'interrogation. Hier, on n'a pas eu le temps d'en parler, là, mais on a nommé à la francophonie le député David Birnbaum, qui est un député anglophone du West Island. Lui, c'est le responsable chez les libéraux de la francophonie.
Francophonie canadienne.
Ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'on veut mettre l'accent sur l'aspect minoritaire et que David Birnbaum, évidemment, provient de la minorité linguistique du Québec? Peut-être que c'est la logique.
Mais est-ce que la logique serait pas parce qu'il y a une relation intergouvernementale canadienne? Fait que celui ou celle qui ramasse ça a de facto francophonie canadienne?
Ouais, mais écoute, de facto, là, quand je regarde, par exemple, ce qui a été donné à Gaëtan Barrette, là, l'amalgame qu'on lui a donné avec immigration et infrastructure, tu sais, le de facto, c'est le choix du chef. Alors, la chef a décidé que c'était bien parler francophonie canadienne avec un député anglophone.
D'ailleurs, pour jouer dans le film que tu nous décris, on a séparé, on en parlait tantôt, on a séparé lutte au changement climatique puis environnement.
Ouais.
C'est deux porte-paroles différents. J'espère qu'ils vont se parler parce qu'on risque d'avoir des positions différentes.
Oui, puis c'est un peu le cas dont on a parlé hier du défi d'André Fortin avec Marois Ritzky qui est au Conseil du Trésor. Finance, Conseil du Trésor, ça doit aller main dans la main. Et disons que Marois Ritzky a eu des positions plutôt, disons, plus que progressistes sur certains enjeux à quelques reprises.
Tout à fait. Je disais dans mon commentaire ce matin, je sais pas si tu as écouté, mais il y a beaucoup d'anciennes ministres qu'on disait, Colin, ils ont beaucoup de responsabilités quand ils étaient au Conseil des ministres, puis là, ils sont comme effacés, tu sais, t'entends. Kathleen Veil, elle se ramasse avec...
Protection de la jeunesse.
Lise Thériault, l'OPC. Kathleen Veil, Ordre professionnel, protection de la jeunesse, Lise Thériault, l'OPC. Christine Saint-Pierre, enseignement supérieur. Nicole Ménard, père, le WIP, relations internationales. Puis Hélène David... Garde langue française, présidente du caucus. Elle, peut-être tu peux dire que c'est une petite promotion parce qu'elle va siéger aux officiers parlementaires, mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anciennes ministres qui sont pas utilisées à leur plein potentiel.
Oui, effectivement. Est-ce que c'est une volonté d'avoir du renouveau au sein du cabinet fantôme? Ben, si c'est le cas, c'est pas le cas pour tous les anciens ministres. Parce qu'évidemment, Gaëtan Barrette, Pierre Arcan, eux, ils ont beaucoup de temps de glace. Il y a peut-être Marie Pompetti, là, qui est une exception. Santé, ça, c'est une belle promotion. Et une autre annonce qui est passée un peu inaperçue,
mais
qui est quand même significative. Ouais, la directrice générale du Parti libéral du Québec, qui était l'ex-ministre Véronique Tremblay, qui a annoncé en même temps, comme si on voulait enterrer la nouvelle, qu'elle quittait ses fonctions. Alors, qui va la remplacer? Ça, c'est un point d'interrogation. J'imagine que Mme Anglade amènera quelqu'un de son entourage et qu'on ne voulait pas mettre l'accent sur le départ de Mme Tremblay. Et c'est pour ça que ça a été annoncé à peu près en même temps.
Ouais, ça soulève pas mal de questions, comme la directrice générale du parti qui quitte, au moment où on annonce donc le nouveau cabinet fantôme. On est à 2 ans de l'élection. Le parti va pas bien. Les finances devraient pas être très bonnes. Le membership va très bien. C'est à se demander si vraiment c'est un départ volontaire.
Ben, c'est ça.
C'est pas sûr.
C'est une bonne question. Et souvent, certains diront que c'est normal, là, mais souvent, lorsque l'élection d'un nouveau ou d'une nouvelle chef, ben cette personne-là veut avoir les coups des franches et mettre des gens loyaux dans les postes clés. Et évidemment, la direction générale d'un parti, c'est un poste clé. Alors, il est pas impossible qu'on ait fait comprendre à Véronique Tremblay qu'on la remerciait de ses services et qu'on passait maintenant à autre chose.
Oui, tout à fait. L'énigme demeure, je termine avec ça. L'ancienne ministre de la Culture, Isabelle Melançon. Voilà, Isabelle Melançon qui prend les responsabilités de l'Ouest du Québec. Je la comprends pas, celle-là. Je peux pas croire que c'est ça, là. On en a parlé hier. Elle sera donc porte-parole en culture, communication, tourisme, conditions féminines et responsable de l'Ouest du Québec. Je comprends pas.
Ouais, alors c'est beaucoup de responsabilités, donc on peut s'entendre que la responsabilité de l'Ouest du Québec là va passer pas mal dernier parmi toutes les responsabilités qu'elle a. D'autant plus que Verdun, bon, ça a beau être dans le sud-ouest de Montréal, disons que ça a pas les mêmes priorités que l'Outaouais. Hein? Mmh. On est dans un autre monde. Je comprends pas, toujours
puis on,
pas.
Puis on a des députés ici.
Mais
moi,
oui.
Moi, je comprends pas encore qu'on est capable de se permettre de mettre quelqu'un à vice-présidence. Là. Moi, il me semble que j'aurais laissé faire ça. Au-delà du budget puis les petits cocktails, là, je veux dire, c'est pas ben payant politiquement là d'avoir un vice-président. Là.
Non, c'est pas payant politiquement, mais c'est souvent utile lorsqu'on veut mettre quelqu'un sur la voie d'évitement.
Oh, t'es pas fin. Parle de Maryse Godreau comme ça, toi.
Je fais pas le jugement de valeur, mais c'est une des raisons souvent qu'on donne ces postes qui sont plutôt honorifiques, hein, lorsqu'on est rendu 8e vice-présidente, là.
Troisième.
On n'est pas vraiment en haut de l'échelle et au centre des décisions, comme François Paradis peut l'être, évidemment.
Non, pas tout à fait. Et, c'est peut-être moins dommageable de la museler que de la laisser parler.
Ouais, en même temps, écoute, face à Mathieu Lacombe, par exemple, là, Isabelle Malençon, bon, c'est sûr que Monsieur Lacombe non plus n'habite plus dans la région, alors peut-être qu'ils sont sur un pied d'égalité à ce niveau-là.
OK, beau petit crochet de gauche. Merci beaucoup, Carl.
Salut, Rock.
Bye. OK, on va prendre une courte pause. Carl vous en parlait. C'est un petit peu ésotérique, notre affaire, là. On s'en va à l'ONU. Hey, l'ONU, OK? On s'en va regarder la possibilité d'avoir un siège. On souhaite, on est en élection. Le Canada est en élection. On se bat contre la Norvège puis l'Irlande pour avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. L'ambassadeur là-bas à New York à l'ONU, c'est Marc-André Blanchard, un gars que je connais pas mal bien, là. Et lui est l'ambassadeur, puis lui, écoute, on a même fait un spectacle virtuel avec Grégory Charles hier pour essayer d'attirer des votes. Faut le faire. On va essayer de mieux comprendre ça. Fait que je vais aller rejoindre mon chum. Ben, ça se donne que c'est l'ancien ministre des Affaires extérieures, puis c'est un ancien ambassadeur. Puis il est pas pire au golf cette année. Lawrence Cannon est avec moi.